le futur n'existe pas, sinon ce ne serait pas le futur. Donc le futur, c'est d'abord une construction imaginaire. C'est d'abord une manière d'essayer de réfléchir à ce qui pourrait être ou ce qui devrait être, qui peut nous aider à essayer des choses qui sortent des sentiers battus.
Matryoshka.
Bonjour, bienvenue sur Matryoshka. Alors, le monde d'avant, on en parle beaucoup, et le monde d'après, on en parle beaucoup aussi. Sauf que comment arriver à le dessiner, ce futur? Certains le fantasment, là où d'autres, effondristes, affirmés ou non, imaginent sa fin très prochaine. Alors nous, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair dans ces futurs potentiels, on a été à la rencontre de Daniel Kaplan, qui est chercheur, penseur et explorateur des futurs. Acteur du numérique et de son développement économique et social depuis plus de 20 ans, Daniel Kaplan a été un des fondateurs, d'ailleurs il l'a dirigé, de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et plus récemment, il a créé le réseau Université de la Pluralité, U+. Sa mission, mobiliser toutes les ressources de l'imaginaire pour créer de nouveaux futurs. Eh bien, je peux vous dire qu'on a pas mal de travail de reprogrammation à faire. On écoute.
Notre cerveau imagine le geste qu'il va produire avant que le geste se produise. Que c'est les mêmes zones du cerveau qui se sont activées quand on imagine un geste et quand on le produit. Donc on est bien un animal qui imagine, qui se projette dans quelque chose. En gros, il faut commencer par se méfier des gens qui vous disent « le futur sera ceci ». Ça, vous êtes certain qu'il ne le sera pas, ou qu'il ne le sera pas pour tout le monde, comme de même qu'il y a plusieurs présents, il y a plusieurs futurs. Voilà, c'est première chose à avoir en tête, c'est une construction imaginaire.
Et cette certitude face au futur qui est plaquée dans les cerveaux de chacun aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de nouveau?
C'est d'abord pas du tout, par exemple, l'attitude d'un prospectiviste au sens professionnel du terme, ou dont la première règle professionnelle quasiment, c'est de dire que le futur n'est pas écrit. C'est une combinaison de forces et donc que le futur aussi a une relation essentielle avec deux notions qui sont celles d'incertitude. On ne sait pas et on ne saura pas de manière définitive, et avec la notion de complexité, c'est-à-dire qu'en plus, si j'agis à tel endroit, je ne sais pas ce que ça produira à un ou deux degrés de séparation. D'une certaine manière, on peut se dire que les convictions fortes sur le futur ont été beaucoup plus nettes à d'autres moments de l'histoire. Il y avait l'idée assez claire, au moins en Occident, d'une flèche du temps, du progrès, d'un sens de l'histoire quand même dans la tradition marxienne. Vous aviez énormément de gens qui avaient une idée assez précise de ce qu'il serait ou de ce qu'il devait être, mais avec, pour certains, une conviction qu'effectivement, il allait l'être.
C'est-à-dire que pendant tout un temps, on a pensé, pendant tout ce temps que vous décrivez, globalement, en Occident, on avait l'impression que demain serait sans doute meilleur qu'aujourd'hui.
Oui. Depuis, on va dire, 200, 300 ans, on est en Occident dans cette idée, en tout cas, d'une flèche du temps. Qui sait, effectivement, un peu cassé dans les décennies récentes, parce que constat du fait que visiblement le progrès n'était pas continu, constat de la montée de toute une série d'incertitudes, pas seulement climatiques, également sociales. Dans pas mal de pays, en particulier en France, cette cassure se fait dans des enquêtes d'opinion où de plus en plus de gens considèrent que l'avenir de leurs enfants sera en fait plus dur que le leur et que le futur sera plus sombre que le présent.
Est-ce que cette cassure dont vous parlez, elle n'est pas aussi liée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la bombe atomique, ou à un moment où on se rend compte que le progrès a un effet dévastateur et
bombe,
ça brouille les imaginaires?
La bombe joue un rôle, la bombe et la Shoah quand même. C'est-à-dire ce constat que nous sommes capables d'arriver à des formes industrielles d'assassinat ou de destruction humaine. C'est vrai que c'est une cassure, mais qui pour moi est quand même plutôt une cassure relativement circonscrite à ce moment-là. Et ce qui change quand même plus tard, et donc ça c'est plutôt à la fin des années 70, plutôt au moment où aussi les grandes idéologies ont commencé à se casser, plutôt c'est aussi la désillusion évidemment vis-à-vis du socialisme réel, puis peut-être du capitalisme réel, l'arrivée des crises récurrentes, etc., où là, à un moment, il y a cette idée qu'effectivement le futur il n'est pas nécessairement positif, qu'il est beaucoup plus difficile d'agir dessus que ce que l'on croyait.
Et ça, dans les années 70, déjà, on commence à avoir la conscience de ça, non ?
Alors, dans les années 70, pareil, dans certains cercles, oui, le rapport du Club de Rome n'est pas un rapport sur le changement climatique, mais est un rapport déjà sur les questions de pollution, les questions d'extinction, enfin de finitude de la Terre, notamment par le biais des ressources. Donc ça existe, ça produit un assez grand choc. Et la question climatique existe depuis plutôt les années 80.
Si la question climatique émerge petit à petit dans nos esprits à partir des années 80, c'est surtout dans les années 2000 que s'impose clairement cette idée de mur écologique. Il semble là incontournable, inéluctable, inévitable. Et Daniel Kaplan explique que c'est cette cassure de la confiance en l'avenir, cette impossibilité de penser des lendemains qui chantent, c'est ça qui nous bloque aujourd'hui dans nos schémas de pensée occidentaux. C'est ça qui nous bloque dans notre monde. Mais comment penser autrement notre monde ?
On est à un moment où il faut qu'on explore de manière à petit à petit pouvoir faire advenir d'autres mondes. On ne fera pas advenir d'autres mondes qui fonctionnent autrement si on n'est pas capable d'imaginer d'autres mondes. Cette espèce de monopole de l'Occident sur la production de travaux sur le futur est en train de s'achever.
Dites-moi, expliquez-moi en fait ce que c'est ce monopole. J'aimerais
que vous me disiez. C'est-à-dire que jusqu'ici, d'abord la profession de futur, la valorisation du futurologue, etc., était un truc hyper occidental. Pour d'autres cultures, on était principalement en réaction face à un passé de domination par l'Occident.
C'est pas un repli identitaire,
non,
c'est se nourrir de ses racines pour
c'est
arriver
se nourrir
à
d'eux, d'autres c'est autrement. Se dire, mais en fait, est-ce que ça nous dit des choses intéressantes sur ce que l'Occident, lui, perçoit comme étant l'impasse de son propre modèle. On voit que, par exemple, dans la pensée africaine, il y a un travail très délibéré, à la fois dans la fiction, dans les arts et dans la philosophie, pour dire, bon, ça va, maintenant, c'est à nous de trouver les mots pour parler de notre réalité, pour parler de notre futur, et on n'a pas toujours besoin de le faire, même par rapport à la colonisation, et pas seulement pour parler de nous, pour parler du monde. Une des choses qui me frappe, par exemple, dans plusieurs bouquins de science-fiction africaine, c'est clairement la relation à l'étranger humain ou extraterrestre ou animal, qui n'a rien à voir avec celle qu'on va trouver dans l'essentiel de la science-fiction européenne ou anglo-saxonne, ou dans laquelle cette relation est d'abord une relation d'altérité radicale et de menace. Hein, donc l'extraterrestre, quand il débarque aux États-Unis, il est accueilli par une rangée de tanks et éventuellement un ou deux journalistes héroïques, et puis c'est comme ça. L'extraterrestre, quand il débarque à Lagos dans au moins deux ou trois bouquins que j'ai lus, il s'insère dans le bordel urbain, et donc ça fait des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus denses.
Donc on entend bien que pour arriver à penser autrement, eh bien il serait plus utile d'aller chercher, explorer ailleurs, dans d'autres cultures. Mais outre cette cassure en Occident, il est une autre cassure dont nous parle aussi Daniel Kaplan, c'est la cassure technologique qui nous façonne aussi depuis 20 ans. La cassure technologique, qu'est-ce que c'est ? C'est la percée des machines, et l'homme dans tout ça, etc. Et donc Daniel Kaplan, qui je vous rappelle a donc fondé la FIM, décrit que depuis le début des années 2000, cette inquiétude face aux machines grandit largement. Mais il explique aussi autre chose qui est assez intéressant, vous allez l'entendre, que la façon dont nos usages évoluent en tant qu'êtres, hommes, femmes, connectés d'un côté, et la façon dont les grands acteurs du numérique pensent et construisent notre monde connecté, le smart monde d'une certaine façon, eh bien, ces deux choses-là ne sont pas forcément en phase. On est donc là, une fois encore, au carrefour de différents imaginaires, dans l'incapacité de penser le monde d'après, et comme on le dit en mathématiques, quand on n'est pas capable de penser derrière, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on bloque, c'est une singularité.
L'idée de la singularité, c'est l'idée qu'à un moment, alors on peut l'exprimer de différentes manières, mais disons qu'à un moment, nos machines, notamment nos machines entre guillemets pensantes, disons les ordinateurs pour le dire comme ça, atteignent des capacités individuelles et collectives qui dépassent de loin les nôtres, mais qui dépassent aussi nos capacités probablement d'entendement et donc a fortiori nos capacités de les contrôler et de les rattraper.
À la veille de l'ouverture du XXIe siècle, 1999, vous décidez, avec d'autres, mais vous décidez de créer la FING en 1999, qui est la Fondation Internet Nouvelle Génération. Qu'est-ce que vous percevez là? Qu'est-ce que vous envisagez là? Dans quel virage on est là?
C'est vrai qu'en 99, il apparaît évident que cet Internet qui s'était ouvert au public en 95 était en train de changer d'âge. C'était le haut débit. C'est-à-dire surtout le moment où, au fond, un appareil connecté est connecté à partir du moment où il est allumé, il est connecté. Alors qu'avant, on avait un boîtier qui s'appelait un modem qu'on connectait à la ligne téléphonique. Il fallait composer un numéro pour pouvoir se connecter. Donc ça veut dire que par défaut, on n'était pas connecté. C'était pas seulement que c'était lent, c'était que normalement, on n'était pas connecté, que c'était souvent compté au temps de connexion. Et donc, on mesurait sa connexion, alors qu'on on passait à un moment qui est complètement différent, qui est normalement un appareil au moins fixe. Quand il est allumé, il est connecté.
Ça, c'est à ce moment-là que finalement, ça change complètement notre posture d'être humain. C'est-à-dire, on passe d'être libre à être connecté.
On peut être libre et connecté, ça c'est autre chose. C'est ne pas être connecté qui devient un acte volontaire.
Et la façon, depuis 20 ans, dont l'histoire s'écrit, est-ce qu'on arrive à voir où on va? Est-ce que vous avez eu l'impression que pendant ces 20 années, vous voyez à peu près l'évolution que cette transition-là apportait?
Il y a classiquement, de la part de... alors encore plus de ceux qui travaillent politiquement sur le numérique, mais aussi des grands professionnels, un désintérêt vis-à-vis des pratiques réelles quotidiennes. On le trouve dans un autre endroit. On a beaucoup travaillé à la FING sur l'idée de Smart City, cette idée d'une ville devenue d'un coup, par l'interconnexion de tous les systèmes, de tous les acteurs, intelligible dans sa complexité, pilotable, etc. Et on avait juste montré un truc en disant « Regardez tous les programmes de Smart City dans le monde et les acteurs qui sont dedans. » Et ensuite aller dans la rue demander qui sont les entreprises ou les services numériques qui ont changé votre vie dans la ville. Et regardez s'il y a un match. Et il y a, en dehors des programmes de Smart City gérés par Google, puisque Google fait partie des gens qui sont cités, mais sinon il y a zéro match. Il n'y a aucune correspondance.
C'est-à-dire qu'ils parlent plus de quoi d'un côté
Les utilisateurs, ils vont vous dire Google Maps, Pokémon Go, Airbnb, Uber. On n'est pas obligé de les aimer.
Tout ce qui est service.
Notamment tout ce qui est service. Et puis probablement aussi WhatsApp ou d'autres qui se relèvent de la communication, etc. Les autres, c'est Veolia, c'est des entreprises très respectables par ailleurs. C'est Veolia, Schneider, Cisco, IBM, etc. Je ne dis pas qu'il y a le bien et le mal, il y a juste une espèce de disjonction absolue.
Mais parce que quand on est sur le champ de ces grandes entreprises-là, elles racontent quoi en fait,
elles racontent le futur du numérique? Elles racontent l'idée d'une hyper rationalisation du système urbain pilotable. C'est l'idée smart. J'ai tout interconnecté et grâce à ça, on va avoir un système urbain qui va être complètement serviciel, donc complètement orienté vers les fameux utilisateurs en question qui s'en foutent parce qu'en fait, ils ont déjà développé leur écologie de pratique complètement en dehors de cette
vision-là. Parce qu'en fait, expliquez-moi que je comprenne bien la différence entre ce que les grands modèles sont en train d'essayer de dessiner ou de percevoir de seraient les besoins à venir.
Ils le dessinent à partir de leur pratique professionnelle. Donc, ça ne dit pas plus que ça. Ce n'est pas une différence entre deux modèles, l'un qui serait bon, l'autre qui ne serait pas bon.
Non.
C'est juste une différence entre des acteurs qui postulent le fait que la ville numérique, c'est ça, et que en faisant ça, cette interconnexion de leurs différents systèmes, ils vont pouvoir fournir un service vraiment trop bien, à la fois aux gestionnaires urbains, aux élus, etc., et aux citoyens, dans l'ignorance totale de la réalité actuelle des pratiques numériques urbaines qui sont extraordinairement profondes et qui sont faites de tout autre chose. Donc c'est juste cette disjonction sur laquelle je pointe qui, pour moi, est assez proche de la disjonction entre une manière de penser les fameuses TICE, technologies de l'information et de la communication, pour l'éducation, donc complètement liées à la fois à des théories pédagogiques, mais aussi à l'organisation du système éducatif, où qu'il soit, et la réalité de pratiques qui sont des pratiques pédagogiques ou des pratiques d'apprentissage qui sont extraordinairement denses et nombreuses et sur lesquelles, au lieu de s'appuyer, c'est ça qu'on pourrait faire, avoir, au lieu de s'appuyer dessus et d'essayer de, éventuellement de les réguler, mais de faire du judo avec, d'une certaine manière, on va essayer d'arriver avec un machin qui, évidemment, va s'entrechoquer avec les pratiques et va perdre face aux pratiques.
L'éducation nationale, les parents, beaucoup s'appuient sur différentes données, chiffres ou autres qui paraissent en montant l'impact qui pourrait être dangereux du numérique sur la construction de l'enfant.
Oui.
Est-ce que vous dites le contraire?
Non.
Ce que
je dis, je ne l'ai pas inventé, Serge Tisseron le dit mieux que moi, c'est que ce qui est négatif sur la construction de l'enfant, c'est un... Le tout numérique, c'est-à-dire le fait que d'un coup ça se substitue à tout, et c'est probablement deux, je ne sais pas s'il le dit comme ça, mais c'est un peu en sous-jacent, c'est le fait de s'en remettre au numérique pour ne pas avoir à s'en occuper. Sinon, c'est quand même aussi nuisible aux enfants de dire « Ah, il y a un truc qui en fait est quand même central à la vie de tout le monde, mais toi non ». C'est débile. Et surtout, du coup, au nom de ce non, si j'ose dire, finalement, se priver d'inventions possibles, de pratiques, ça, c'est absurde. Au nom, parfois, d'ailleurs, de mythologie urbaine du type « Ah oui, mais dans la Silicon Valley, toutes leurs écoles, il n'y a pas de numérique. » Non, il y a quelques-unes écoles Steiner dans lesquelles il y a peu de numérique et le numérique est justement maîtrisé, contrôlé, etc., d'enfants de famille qui, quand ils rentrent à la maison, sont hyper numériques. Et donc, justement, on est dans une écologie des pratiques et là, c'est bien, là, c'est intéressant.
Donc si je récapitule ce qu'on s'est dit depuis le début de l'entretien, très rapidement, on a d'un côté une clé centrale nouvelle qui est le numérique, et de l'autre un défi environnemental, ce fameux mur écologique qui inquiète tout le monde. Donc la question qui est la plus partagée aujourd'hui, c'est de se dire, si on a une clé et si on a le problème, est-ce que cette clé ne serait pas la solution à ce problème ? Dans l'idée, la formulation peut être intéressante, mais concrètement, comment le numérique pourrait façonner autrement nos imaginaires pour sauver la planète? Daniel Kaplan y planche depuis quelques années.
On avait cette intuition-là, qu'on avait traduite par une provocation qui disait la transition numérique, elle transforme tout, mais elle ne sait pas en quoi. Et la transition écologique, elle sait a priori en quoi les choses devraient se transformer, mais elle ne sait pas comment. Et donc, on pourrait essayer de rapprocher le meilleur des deux mondes. C'était une intuition, elle était marrante, du coup, elle a intéressé des gens. On a commencé à y travailler avec un certain nombre de gens qui venaient, c'était l'idée du champ de l'écologie et du champ du numérique. Et assez vite, on s'est aperçu qu'on ne se comprenait pas, en fait. Qu'on pouvait utiliser les mêmes mots pour dire des choses qui n'avaient rien à voir. Et donc, petit à petit, on s'est aperçu que c'était effectivement une question d'imaginaire. Pour que des choses puissent se passer entre eux, il faut effectivement qu'on en passe par une phase langagière, par une phase qui tournait autour des représentations, comment on se représente la question écologique, comment on se représente, ou les questions écologiques, comment on se représente le numérique, comment on se représente les choses, comment on formule justement des problèmes, des enjeux, des défis, des objectifs, des aspirations. Et on a travaillé, on a fait des schémas, on a fait des choses comme ça. Est-ce qu'il fallait arriver à ce que les gens arrivent à comprendre, l'imaginaire c'est beaucoup dire, mais en tout cas à comprendre le vocabulaire, la grammaire de l'autre.
Est-ce que c'est la cause aussi, pour la raison pour laquelle, selon vous, il y a cette incapacité aujourd'hui à résoudre ce problème écologique? C'est parce que, justement, il y a un problème de langage, on n'arrive pas à se comprendre.
Alors, il faut qu'on arrête de se dire que des questions de cette nature-là peuvent être considérées comme des problèmes à résoudre. C'est trop petit. Comment voulez-vous changer le monde tel qu'il est, avec les outils qui ont créé le monde tel qu'il est? C'est très difficile, voire un peu impossible. Et c'est là où la question de l'imaginaire se joue aussi. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes capables, ou pas, et c'est normal qu'on soit incapable, au départ en tout cas, de nous figurer un monde qui serait régi par d'autres règles et principes d'action que ceux qui sont aussi structurants dans notre esprit, à nouveau en Occident, depuis probablement au moins 2000 ans, que sont la croissance, la richesse, la domination de l'homme vis-à-vis du reste du vivant. On est quand même complètement structuré autour de ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le plus profond du plus profond de l'imaginaire. C'est les mythes fondateurs de nos sociétés qui sont structurés autour de ça. Et donc, d'arriver à se dire, c'est très facile d'arriver à se dire, il faut arrêter de. Mais à quoi ça ressemble ? Et là, c'est forcément quelque chose qui ne peut passer que par des reconstructions imaginaires. Mais il ne suffit pas de le dire en disant « alors il faudrait que l'imaginaire il dise qu'on ne soit pas les maîtres et possesseurs de la nature ».
C'est ça, reconstruire l'imaginaire, ça ne veut pas dire réécrire 2000 ans de ce qui nous a conçus, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire, en tout cas dans l'intuition qui est la nôtre, ça veut dire une multiplication d'expériences de pensée. Il y a toute une recherche aujourd'hui, philosophique, artistique, qui se dit « mais comment est-ce qu'on pourrait échanger avec d'autres espèces ?» Et on ne sait pas comment on peut le faire, mais on peut du coup l'expérimenter par des biais qui n'ont pas besoin forcément au départ s'en tenir à la rigueur des protocoles scientifiques, politiques, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Beaucoup de ces artistes travaillent avec des scientifiques, mais à un moment, ils s'autorisent une licence qui est aussi une licence de se tromper, de se planter, et ils vont explorer, se dire voilà, en fait, on pourrait essayer ça. On pourrait le faire comme ça. Etc. Et c'est ce type de percée qui nous paraît aujourd'hui indispensable, mais qui est forcément petite, diverse, fragile, pleine d'échecs et de déceptions, et qui ne va pas du tout produire un grand discours général, qui va explorer plein de petites questions différentes, mais on peut essayer des choses, et on peut trouver notre propre chemin, qui n'est peut-être pas celui du voisin, mais qui est en tout cas un chemin vers des formes de futur qu'on pourrait avoir envie de faire advenir. Et déjà d'arriver à ça, c'est quelque chose qui me paraît complètement indispensable, sans lequel on ne peut que subir les transformations qui vont arriver.
Qu'est-ce que vous pensez important de transmettre à nos enfants comme clé pour continuer à écrire le futur là ?
La capacité à raconter des histoires, justement. Je pense que on est des êtres qui racontons des histoires, mais on débarrasse assez vite les gamins de cette capacité-là, parce que c'est pas très sérieux quand même. Et je pense que c'est une capacité fondamentale.
Et oui, savoir raconter des histoires, une fois encore. Merci beaucoup, Daniel Kaplan, de nous avoir aidé à imaginer d'autres futurs pour dessiner des itinéraires bis, d'autres voies, créer des nouvelles perspectives pour nous, comme pour les générations futures. Et je retiendrai qu'il faut continuer d'échanger avec les autres, avec d'autres cultures, avec d'autres machines, avec d'autres espèces, pour essayer de penser un petit peu plus loin, de penser contre soi-même. Matrioshka, c'est maintenant terminé. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de continuer à partager nos contenus, à les liker, à les commenter, à les envoyer à votre cousin, à votre frère, à votre grand-mère et d'autres, si vous le souhaitez, encore plus loin. On se retrouve, nous, très vite pour un nouveau numéro. À bientôt. Matrioshka.